l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Ce mois-ci, nous partons en Serbie, qui connaît en cet automne un mouvement social d'une intensité et d'une longueur inédite depuis 1997, et la contestation surnommée Otpor, qui avait mené à la chute du dictateur Slobodan Milosevic. Cette année, c'est une convergence des luttes qui amène le pays au bord d'une révolution similaire. Le point de départ, l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre, qui a causé la mort de 15 personnes. Restaurée durant 3 ans par un consortium d'entreprises chinoises, hongroises et françaises, la gare de Novi Sad avait été inaugurée en grande pompe par le président Alexander Vučić et le premier ministre de la Hongrie. Pourquoi la Hongrie ? Car le pays voisin, dont la frontière est toute proche de Novi Sad, sera lui aussi traversé par la nouvelle ligne à grande vitesse Belgrade-Budapest. Près de 4 mois plus tard, l'auvent s'effondre sur le parvis de la gare. 15 personnes en tout décèdent. Immédiatement, l'opacité qui a entouré la restauration suscite méfiance et soupçons de corruption. 2 jours après le drame, 1 millier de personnes défilent à Belgrade, brandissant des mains peintes en rouge. Le 5, 20 000 personnes marchent à Novi Sad en clamant « Prison, prison !». Le ministre des Transports démissionne, mais c'est loin d'être suffisant. Les protestataires dénoncent l'absence totale de transparence et exigent la démission du maire, l'identification et l'arrestation des responsables. La réaction du pouvoir est tout autre. Du jour au lendemain, la documentation concernant la reconstruction de la gare est retirée du web. Le procureur voit son enquête entravée et les responsabilités sont niées à tous les niveaux. La société des chemins de fer serbe s'enfonce dans le mensonge en affirmant à tort que l'auvent ne faisait pas partie des récentes rénovations. On chante « C'est un crime, pas un accident ». On demande bientôt la tête du président et celle de son premier ministre, également ancien maire de Novi Sad. Le mot d'ordre « Serbie, arrête-toi, fais le tour du pays ». Tous les jours à 11h52, nombre de personnes cessent le travail durant 15 minutes et descendent dans les rues en silence pour bloquer les carrefours. 11h52, en référence à l'heure du drame, et pendant 15 minutes en hommage aux 15 personnes décédées. Or, à la fin novembre, l'un de ces rassemblements est attaqué. À Belgrade, devant la faculté des arts dramatiques, étudiantes et professeurs rassemblés sont agressés par des personnes cagoulées et armées de bâtons. Dans les jours qui suivent, le fait se reproduit. Ce sont même parfois des voitures qui heurtent délibérément des protestataires. Visiblement organisées, ces attaques sont forcément liées au pouvoir, et la méthode rappelle celle de l'ancien dictateur Milosevic. Pourtant, cette force de répression musclée et hors de tout cadre a l'effet d'élargir la contestation et de générer des formes de solidarité avec celles et ceux qui prennent le risque de se mobiliser. Bientôt, l'un des auteurs des violences de la faculté d'art dramatique est identifié. Il se révèle être un conseiller municipal du parti au pouvoir. 3 jours après l'agression, soit le 25 novembre, le blocage est décidé. Étudiantes et étudiants barricadent leur université pour que le ministère de l'Intérieur dépose des plaintes pénales contre les personnes identifiées comme autrices des violences. Très vite, d'autres universités suivent le mouvement et les assemblées se multiplient. Une coordination étudiante se met alors en place et votre revendication est objectif du mouvement. Jovan Drazic, étudiant à la fac de lettres de Belgrade, explique dans le courrier des Balkans
« Nos revendications sont claires. Nous demandons l'arrestation et l'engagement de poursuites judiciaires contre toutes les personnes responsables de cette tragédie, la divulgation complète des documents de la reconstruction de la gare de Novi Sad, ainsi que la responsabilisation du gouvernement pour la corruption systémique. Nous subissons une pression croissante, incluant des actes d'intimidation et des provocations délibérées de la part d'agents non policiers visant à saper nos efforts. Cependant, nous sommes soutenus par l'extraordinaire générosité des professeurs et des citoyens qui fournissent des ressources essentielles. Cette solidarité alimente notre détermination alors que nous luttons pour un vrai changement après plus d'une décennie d'immobilisme.
Le slogan « Vos mains sont ensanglantées » émerge dans l'ensemble du pays. Chanté et peint sur les murs, il s'accompagne du symbole de la paume ensanglantée, couverte de peinture rouge et appliquée sur les banderoles ou tout simplement brandie face aux forces de l'ordre. Il s'agit d'une référence directe au mouvement Otpor qui avait mis fin à la dictature de Milosevic. À l'époque, il s'était popularisé grâce au symbole du point noir. Mia Vracharits et Senka Todorovits ajoutent.
Nous souhaitons que ce mouvement dure suffisamment longtemps pour engendrer un changement significatif et durable, afin qu'il laisse une marque importante et ne disparaisse pas simplement dans les souvenirs. Notre objectif est de persévérer, de lutter résolument pour une avancée qui nous propulse vers l'avant.
Car la colère gronde régulièrement en Serbie contre le régime Vučić et sur des sujets très variés. Aussi, le mouvement pour la justice après l'accident de la gare de Novi Sad rassemble bientôt de nombreuses causes. Il y a d'abord les opposants à la gentrification de la capitale, qui tiennent désormais une ZAD en plein cœur de Belgrade, au pied du vieux pont sur la Save. Ce pont, symbole de la lutte antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale, doit être prochainement détruit pour accompagner les projets de gentrification du centre de la ville. Alors un collectif s'est monté et lutte depuis des mois pour préserver le pont et empêcher les promoteurs de faire leur loi. Ces zadistes ont eux aussi fait les frais des chemises noires de Vučić lorsque 40 militants du parti au pouvoir ont tenté d'attaquer une manifestation. L'attaque fut heureusement un échec puisqu'ils furent repoussés par le service d'ordre. La contestation rassemble également les opposants et opposantes à l'implantation de mines de lithium dans le pays. En 2022, le mouvement paysan remporte une grande victoire en réussissant à repousser la menace de la multinationale Rio Tinto, qui souhaite implanter dans la vallée du Jadar l'une des plus grandes mines de lithium d'Europe. Le mouvement, démarré localement, se développe grâce au réseau paysan et écologiste, et finit par mettre tout le pays dans la rue. Le président Vučić catalyse la colère et ne peut finalement que céder devant l'ampleur du refus. Il promet alors l'abandon des projets d'exploitation du lithium et renonce à modifier la loi pour permettre la réalisation du projet. Or, en juillet dernier, la Cour constitutionnelle fait volte-face et annonce que la suspension du permis attribué à Rio Tinto n'est pas constitutionnelle. Le permis n'étant plus invalidé, la multinationale est donc autorisée à installer sa mine. Pour les opposantes au lithium, tout cela s'apparente à une honteuse manipulation politique. Savo Manojlovic, l'un des opposants, déclare sur les réseaux.
Le gouvernement sera responsable de toute agitation et de tout conflit dans la société, car il a piétiné la constitution du pays, occupé les institutions et est devenu la marionnette d'intérêts étrangers.
Étrangement, la décision est en effet prise à l'occasion d'une visite du chancelier allemand. L'Europe, outre qu'elle craint de voir la Serbie se rapprocher de Moscou, cherche en effet à soigner ses relations avec la Serbie pour le lithium contenu dans son sous-sol. L'Allemagne a en particulier grand besoin de lithium pour nourrir la transition énergétique de son parc automobile. Le pays voudrait notamment voir le lithium serbe exploité plutôt que celui qui se trouve sur son propre territoire. Dans l'Humanité, Aleksandar Matković démontrait en août dernier comment la Serbie était devenue la colonie minière de l'Union européenne, après que l'économie capitaliste l'ait privée de ses actifs économiques et ainsi rendue dépendante aux investissements étrangers. Depuis 2014, les investissements miniers ont été multipliés par 27, qu'ils soient européens ou chinois. Les problèmes de gestion des déchets toxiques s'accumulent, alors que 90% des déchets produits dans le pays sont dus à l'exploitation des mines. Aujourd'hui, la Serbie a le taux de mortalité lié au cancer le plus élevé d'Europe, et un institut de Belgrade a détecté un niveau de teneur en bore 10 fois supérieur à la norme admissible dans les eaux potables. La décision de la Cour constitutionnelle semble calculée. À peine quelques jours plus tard, le gouvernement entérine la reprise des opérations d'exploitation dans la vallée du Jadar. Aussitôt, la lutte contre le lithium reprend. Le monde paysan est vent debout pour dénoncer l'irruption de l'extractivisme dans les plaines agricoles qui nourrissent des millions de personnes. Le 10 août 2024, 40 000 personnes marchent à Belgrade. Le slogan « L'Union européenne ordonne, Vučić exécute, Rio Tinto profite ». On chante aussi « Nous ne voulons pas d'argent, nous voulons la santé, Rio Tinto, tu ne creuseras pas ». Or, si le pays descend dans la rue durant plusieurs semaines, le président passe en force, non sans réprimer à tour de bras. Des journalistes et des opposants sont menacés, à l'image d'un chercheur médiatisé qui voit son domicile perquisitionné et reçoit des menaces de mort anonymes via le réseau Telegram.
Teraš naj zamiramo, ti si mi bila kao majka, sasvim prirodno, jedna nikad nisi bila bajka. Teraš naj zamiramo, ti si mi bila kao majka, sasvim prirodno, jedna nikad nisi bila bajka.
La révolte de la gare de Novi Sad est globalement un cri du peuple serbe contre un régime à bout de souffle, corrompu et soupçonné de fraudes électorales. Fin 2023, Belgrade est secouée de manifestations de masse pour dénoncer les résultats des élections législatives. Le pouvoir se satisfait de sa victoire avec 47% des voix, non sans reconnaître lui-même des épisodes problématiques. À l'époque, Belgrade est bloquée de tous côtés durant 24 heures avant une grande journée de manifestation qui se conclut par une tentative d'envahissement de l'hôtel de ville. Avec Vučić, tout Serbe qui lutte constate l'amplification de la répression. Selon Uroš Jovanović, militant des droits civiques, 177 violations des droits humains basiques ont été relevées dans des manifestations entre janvier et novembre 2024, 40 dans des protestations liées au lithium et 38 dans les manifestations liées à la tragédie de Novi Sad. Le rapport indique notamment
« Les autorités ont répondu avec une répression augmentée par un usage excessif de la force et des arrestations commises par des policiers en civil qui refusaient de s'identifier comme tels. Il y a une volonté d'intimider par la menace de la détention, même si celle-ci est courte. Les activistes et les voix critiques ont également été confrontés à des menaces anonymes et des détentions prolongées aux frontières, par exemple, notamment sous prétexte que la lutte était en lien avec une collusion étrangère visant à déstabiliser la Serbie. »
Alors cette fois, lorsque les barbouzes du régime débarquent dans les manifestations et tabassent les protestataires, c'en est trop. C'est ce qui fait la force du mouvement. Plus le régime frappe fort, plus il y a de gens dans les rues. Il faut dire que c'est le cinquième mouvement étudiant en 8 ans. La jeunesse a appris à faire face à la répression, quelle que soit la méthode développée par le gouvernement. Les stratégies de Vučić sont bien connues, et les personnes en lutte ont appris à contrer le discours du régime, à le rendre ridicule et à éviter ses tentatives de déstabilisation. La mobilisation est aussi très structurée, à l'image de cette carte interactive des manifs annoncées, mise à jour en permanence. Dans tout le pays, des dizaines de points de rassemblement sont indiqués. Ainsi, chacun et chacune sait quand, où et pourquoi se tiendra la prochaine manifestation la plus proche. En outre, la répression est minutieusement documentée et toute information est partagée sur les réseaux afin que le régime ne puisse plus frapper en silence. Marko Siritski, étudiant en fac de lettres à Belgrade, explique au Courrier des Balkans.
Je me suis engagé parce que j'ai été arrêté lors de manifestations. C'est ce qui m'a révolté encore davantage. Ce n'était pas qu'une seule cause, c'était une accumulation de frustration et de colère qui m'a amené ici. Mon rêve, c'est que nous apportions tous un changement fondamental, que nous rendions ce mouvement massif et que nous cultivions les valeurs démocratiques. Je veux que les gens agissent de manière responsable, qu'ils s'instruisent et instruisent les autres, et qu'ils poursuivent ce travail, même après que tout cela soit terminé.
Kod kuće, na tebi trčo za loptom i sve moguće čari došle su potom. Prvi poljubac muzika, prvi kickflip, prvi nastup, prva publika i prvi biznis.
Le 11 décembre, une quarantaine d'universités sont en grève. Le pays continue de s'arrêter tous les jours à 11h52. À Novi Sad, un rassemblement devant le rectorat exige la démission du recteur pour avoir refusé de soutenir le blocage de la fac. Un second ministre tombe, celui du commerce cette fois, qui était ministre des transports lors de la rénovation de la gare de Novi Sad. Mais aux yeux de tous, il n'est qu'un fusible supplémentaire. Jovan Drazic explique dans le Courrier des Balkans.
Bien que la coordination entre universités reste fragmentée et largement individuelle, nous posons les bases de réseaux plus solides, en commençant par une assemblée à l'université de Novi Sad. Cependant, je reste profondément préoccupé par le fait que ce gouvernement, solidement ancré dans son pouvoir, ne cédera au changement qu'en étant confronté à une pression collective inébranlable. Sur le plan personnel, je rêve d'une résolution pacifique où la justice triomphe.
Le 13 décembre, plusieurs coordinations paysannes bloquent les autoroutes du pays. La coordination contre le lithium, Nedamo Jadar, nous n'abandonnerons pas Jadar, est notamment présente, mais le nombre de sujets mis sur la table témoigne de l'ampleur de l'alliance qui anime désormais le peuple serbe. Elle exige en premier lieu l'arrêt de tous les projets miniers, mais elle affiche ouvertement son soutien aux étudiantes et aux étudiants. Le mot d'ordre, obtenir la démission de plusieurs ministres, à commencer par le ministre de l'Agriculture, mais le chef de gouvernement Vučević est également visé. C'est alors que ce même gouvernement donne véritablement des premiers signes de faiblesse. Certains documents concernant la rénovation de la gare de Novi Sad sont dévoilés, et 13 personnes sont arrêtées en lien avec la tragédie. Dans la foulée, Vučić annonce l'amnistie et la remise en liberté de tous les étudiants arrêtés pendant les manifestations. Dans une nouvelle allocution, il estime que toutes les demandes du mouvement sont donc complétées, promet la mise en place d'allocations en faveur du logement des jeunes et demande l'arrêt des protestations et le retour en classe. La faculté d'ingénierie civile de Belgrade réagit immédiatement en affirmant que plusieurs documents importants manquent toujours à être révélés. L'université des arts réclame à nouveau l'arrestation des personnes impliquées dans les violences contre les blocages. La coordination étudiante annonce que la lutte n'a aucune raison de s'arrêter, étant donné que ses demandes ne sont pas satisfaites. Vučić, voyant que sa stratégie ne fait pas recette, fait alors avancer d'une semaine les vacances scolaires pour étouffer la contestation. Car entre-temps, les lycées ont rejoint le mouvement. Soutenus par les syndicats enseignants qui déposent un préavis de grève pour le 20 décembre, 20 des 21 lycées de Belgrade ferment leurs portes. à Novi Sad, on crie « Vérité, vérité !» et « Nous ne voulons pas des vacances, nous voulons la justice !» Dans la marche, une grande pancarte représente deux mains ensanglantées prises dans les anneaux d'une balance. Il est inscrit « Qui est le coupable ?» La mobilisation des plus jeunes relève encore le niveau de protestation et le corps enseignant est globalement acquis à la cause. Ivan Pivnitsky, professeur d'histoire à Novi Sad, déclare face au cortège
« Merci de vous souvenir de ce que nous avons appris. Merci d'avoir pensé par vous-même. Merci d'avoir exprimé votre point de vue. Merci d'avoir tiré vos conclusions. Ne laissez pas les années futures vous changer. Ne laissez personne vous changer. Restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. »
C'est toute la société civile qui rejoint peu à peu le mouvement. Alors que le syndicat des journalistes a annoncé se joindre au blocage étudiant dès le 17, une marée humaine descend dans les rues de Belgrade le dimanche 22 décembre, entonnant le slogan « La corruption tue ». Les pancartes en lien avec le mouvement Otpor se multiplient. Une grande banderole annonce ainsi « Belgrade is the world again ». Belgrade est le monde, encore. Une référence directe au slogan des manifestations de 96-97 « Belgrade est le monde ». On se persuade que les mêmes recettes ne peuvent mener qu'aux mêmes conclusions, et que l'autocrate Vučić, ainsi que l'entièreté de son système, tomberont à force de tirer. Dorde Vukadinovic, ancien député interrogé par la chaîne indépendante N1, témoigne. Tous les choix d'Aleksandar Vučić sont désormais contestés. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais c'est sans aucun doute le début de la fin du régime. Plus de 100 000 personnes répondent ainsi à l'allocution du président qui demandait la fin du mouvement. Slavia Square est noire de monde. C'est tout simplement la plus grande manifestation de ces 20 dernières années. Même à Nij, Klagusev, Tsupulokuplié, les cortèges sont fournis et dynamiques.
Teda šta zaviramo, ti si mi bila kao majka, sasvim prirodno, jedna nikad nisi bila bajka.
Le 31 décembre, les Serbes passent la nouvelle année dans la rue, comme ça avait été le cas le 31 décembre 96. Le nombre de facs occupées augmente sans cesse. Au 10 janvier, ce sont 60 universités qui sont en grève, soit les trois quarts du pays. Le 12, les rues de Belgrade sont à nouveau pleines. Pendant 15 minutes, la foule immense se tait, unie dans le silence, brandissant portables allumés ou briquets dressés. Vu du ciel, les images sont impressionnantes. Sifflets multicolores en bouche et pins représentant une main ensanglantée sur les vestes, les Serbes appellent à la grève générale, alors que plusieurs professions ont déjà cessé le travail à durée indéterminée. En particulier les avocates ou au sein du milieu culturel, et les commerces ont baissé leurs rideaux. Le second semestre doit reprendre dans toutes les écoles et les lycées de Serbie. Or, le 21 janvier, beaucoup d'établissements scolaires demeurent fermés. A minima, les cours cessent à 11h52, mais le forum lycéen estime que 90% des lycées de la capitale sont fermés, 70% à l'échelle du pays. Dans le primaire, le syndicat indépendant de l'éducation annonce que plus de 50% des écoles n'ont pas rouvert. C'est parfois même les parents d'élèves qui occupent les lieux, transformant l'école de leurs enfants en agora. À Belgrade, le ministère de l'Éducation envoie des inspecteurs faire constater que les professeurs manquent à leurs devoirs, mais élèves et parents réunis les empêchent d'entrer. Considérant cette démarche du ministère comme une menace à leur égard, les professeurs du lycée de Novi Beograd font jouer leur droit de retrait et le directeur d'établissement, solidaire, suspend les activités de l'établissement. C'est finalement un appel officiel à la grève générale ponctuelle qui est lancé par la coordination étudiante. Le 24 janvier, Belgrade est à nouveau noir de monde et son activité presque paralysée. Le jour suivant, dans un simple message sur Instagram, le président Vučić demande au gouvernement et au bureau du procureur de dévoiler l'intégralité des documents relatifs à la guerre de Novi Sad. La mobilisation ne s'arrête pas pour autant. Lundi 27 et mardi 28 janvier, le périphérique de Belgrade est occupé par des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes. Les coordinations paysannes sont venues appuyer l'initiative étudiante et les tracteurs sont installés en travers de l'échangeur autoroutier. De nombreuses personnes installent des tentes couvertes de slogans et passent la nuit sur l'autoroute. Le 28 au matin, le président Vučić demande au Premier ministre un remaniement ministériel pour calmer la crise. Mais surprise, le Premier ministre décide de présenter sa démission. Cela n'apaise pas non plus les protestataires. Les marches se poursuivent comme si rien ne s'était passé. Une étudiante déclare notamment que les politiciens peuvent bien démissionner, ce n'est pas ce que la rue réclame, que les blocages se répéteront jusqu'à ce que les responsables de la tragédie Novi Sad soient identifiés et poursuivis. D'ores et déjà, les médias serbes parlent du plus grand mouvement étudiant de l'histoire européenne, par sa longévité, mais aussi par sa densité, puisque près de 80% des universités sont désormais paralysées. Alexa Nikolic, étudiant à Novi Sad, explique à Jean-Arnaud Derains pour Mediapart.
En fait, ce que dit le président ne nous intéresse pas. Nous l'avons mis sur le mode « ignorer ». Nos revendications sont claires et nous ne nous battons pas contre le régime du SNS, mais pour l'état de droit, pour que les institutions fassent enfin leur travail. Toutes les décisions sont prises par les assemblées de chaque université. Nous refusons tout modèle vertical, c'est notre pratique d'une démocratie directe, à la base, qui permet au mouvement de tenir.
Fondamentalement, ce mouvement apparaît comme un combat pour que les institutions et la justice fonctionnent comme elles le devraient, et pour une autre forme de démocratie dans laquelle il serait impossible pour des hommes politiques de s'accaparer le pouvoir, dans laquelle la corruption et le clientélisme seraient bannis. D'où le mot d'ordre du mouvement, Od Governost, c'est-à-dire responsabilité, ou rendre des comptes. Beaucoup estiment que le système politique serbe est d'ores et déjà en train de s'effondrer, et qu'il faut réinventer autre chose, indépendamment des politiques et de Vucic en particulier. Le journaliste croate Tomislav Kukets, en reportage pour le média en ligne Devno, écrit
« Je suis arrivé avec l'idée erronée que les Serbes étaient en train de renverser le régime de Vucic et que j'écrirais sur sa chute. En chemin, j'ai compris que ce n'était qu'une partie infime, un grain de sable dans l'histoire de la contestation qui secoue actuellement la Serbie. Aux yeux des étudiants, Vucic ne compte pas, il s'en fiche, et c'est ce qui l'afflige peut-être le plus. Qui sera le président de la Serbie? Il s'en fiche. L'important, c'est que les institutions fonctionnent, que les lois soient respectées. L'important, c'est que chacun soit responsable de son travail, de ses paroles, de ses actes. Bref, ces Serbes se révoltent contre le système, contre l'arbitraire. Les étudiants n'ont pas de leader, de position politique arrêtée. Ils se fichent du pouvoir et de l'opposition. Et c'est ce qui effraie le plus le pouvoir.
Dans la foulée de l'occupation du périphérique de la capitale, étudiants et étudiantes de Belgrade se lancent dans une marche de 80 km pour atteindre Novi Sad et bloquer totalement la ville pour célébrer les 3 mois de protestation. Sur leur passage, dans tous les villages de Voïvodine, les marcheuses sont acclamées. Des tables sont dressées pour les approvisionner en nourriture. L'intérêt est d'apporter les thématiques de la lutte dans les campagnes, où la propagande pro-régime est encore très présente. Vucic n'était autre que le ministre de l'information sous Milosevic. C'est dire à quel point il domine la sphère médiatique. Des rassemblements ont d'ailleurs eu lieu régulièrement devant les médias pro-régime pour dénoncer la propagande. À India, lors de la grande marche vers Novi Sad, le maire refuse d'ouvrir les bâtiments et oblige les marcheuses à dormir dehors en plein hiver. Qu'à cela ne tienne, le lendemain 31 janvier, ce sont des milliers de personnes qui les reçoivent fraternellement à Novi Sad. Au même moment, devant la gare de la ville, une veillée se tient. Des milliers de personnes allument des cierges en mémoire aux 15 personnes tuées. L'opération du blocage de Novi Sad, qui commence le lendemain, est intitulée « 1-2 sur les trois ponts », en référence à la date du 1er février et aux trois ponts qui permettent d'enjamber le Danube à Novi Sad. Ce jour-là, 151 cantons serbes, sur les 174 que comprend le pays, sont mobilisés sous une forme ou une autre. Dans les grandes villes, le nombre de personnes réunies excède celui du 5 octobre 2000, jour de la chute de Slobodan Milosevic. À Novi Sad, les trois ponts sont occupés du soir au matin, et sur l'un d'eux s'installent des tentes pour passer la nuit. En ce mois de février, la contestation gagne les régions du pays réputées comme les plus conservatrices. En témoigne le blocage du péage à Niš le 9 février, ou les rassemblements dans les villages les plus modestes. Et c'est encore cette décentralisation de la lutte qui est mise en avant lors de la fête nationale le 15 février. Ce jour-là, rendez-vous est donné à Kragujevac, ville moyenne du centre du pays. Près de 300 000 personnes rendent ridicule la célébration de la fête nationale autour de Vucic, qui dans son discours supplie presque les étudiants et les étudiantes de mettre fin à leur mouvement. « Toutes vos demandes ont été satisfaites, alors criez victoire et retournez à vos études », clame-t-il. Là encore, des milliers de personnes ont marché plusieurs jours pour rejoindre Kragujevac et étendre la contestation aux plus petites localités. Ils nous ont sortis de notre léthargie, ils m'ont redonné de l'espoir, lance un habitant. Dans le cortège, on crie désormais que la Serbie s'est levée. Milica Pavlovic, étudiante en ingénierie qui a marché 130 km depuis Belgrade, conclut. C'est un rendez-vous avec le peuple, avec l'histoire et avec l'avenir qu'on est en train de construire. À la fin février, les blocages et les occupations se multiplient. Routes, péages, gares, espaces culturels, conseils municipaux et même siège de la mairie à Kraljevo pour exiger la démission du maire qui est finalement exfiltré par la police sous des jets d'œufs. Les assemblées dépassent désormais le cadre étudiant et au fur et à mesure que de plus en plus de secteurs se mobilisent, les revendications s'empilent. Plus impressionnant encore, la puissance du mouvement serbe est en train d'entraîner les pays voisins qui constituaient l'ancienne Yougoslavie. Ainsi, les étudiantes et étudiants slovènes ont manifesté à plusieurs reprises à partir du 8 février pour exprimer leur solidarité avec leurs homologues serbes. La phrase « Un seul monde, un seul combat » était peinte sur une grande banderole en tête de cortège. Cette première marche se déroulait comme une réponse au maire de Ljubljana, la capitale slovène qui avait pris la défense de Vučić. Les protestataires exigent des excuses de sa part, mais il s'agit également de dénoncer la corruption de ce côté de l'ancienne Yougoslavie. Le mouvement est plus important encore en Croatie et en Bosnie. Reprenant les slogans et le symbole de la pomme ensanglantée, le monde universitaire de ces deux pays a commencé à marcher en reproduisant les 15 minutes de silence pour les personnes tuées par la tragédie de Novi Sad. À Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, plusieurs milliers de personnes se réunissent tout en présentant des revendications propres à leur actualité. Elles exigent que justice soit faite pour les 29 personnes décédées lors des inondations et des glissements de terrain en octobre dernier dans la région de Jablanica. Des pancartes telles que « Les catastrophes naturelles sont politiques » ou encore « Nos vies ne sont pas des statistiques » ponctuent le rassemblement. Nous pourrions également évoquer le Monténégro, où les blocages se multiplient après une tuerie dans l'ancienne capitale, et même aller jusqu'en Grèce, où la colère fait encore battre le pavé, 2 ans après la catastrophe ferroviaire de Tempi. Partout dans les Balkans, un mouvement s'élève pour dénoncer la corruption des dirigeants et le manque d'investissement de l'État pour la sécurité des citoyens. La vie chère est également cible des mobilisations et un mouvement de boycott des supermarchés est parti de Croatie pour s'étendre désormais jusqu'en Macédoine, en passant par la Serbie et le Kosovo. À suivre. Zora lihe mi godina, mangava više te ova muči mi Dostapeli mi ja svi zbog diskriminacija koja primi nejako ta romurša Ma to ve jadno, da će re tu džando Da vas da to vas upromande, hema ko džubliju me I meka bori nama ravnopravno srtu te C'était l'actu des oubliés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au doublage, Théo et Marilou. En termes de musique, vous avez pu écouter Legend Says and Goldie avec Ulika, Lil Plain avec Boye et en ce moment Pretty Lude avec Ravno Pravno. Glasani sam imala od kad sam videla nasilje na ženama Otac je tuko majku pred mojim očima Vikao je psovo Meni strah je u venama Dala sam reč svojim sestrama Mama više neće biti u suzama Daću sve od sebe samo da prestane nasilje na ženama Džandona I Jana Kotova svazni džan Toutes nos sources sont listées sur notre audioblog L'actu des oubliés. On vous souhaite un beau mois de mars, de belles victoires dans vos luttes et à dans un mois pour un prochain épisode. Moje reči su prazne zato što sam žensko Šta god da kažem, mislit će da lažem Budim se I ludim iz tog lošeg sna Ako nastavim da čudim, stići ću do zna Pozivam se žene sa sudbinom ko mojim Da borimo se jako za neko bolje sutra Za jutra I dane, nasilje na ženama Morat će da stane Ma to be jadno Na leđima je teret, vremenom sve teži Od problema ne beži, na vreme sve reši